7h28, je pense que tout le monde a été pris par surprise hier à l'annonce de la démission du maire du plateau Mont-Royal, de son poste évidemment dans l'arrondissement, mais aussi au sein du comité exécutif de la ville de Montréal. Luc Ferrandez qui est avec nous ce matin, bonjour.
Bonjour Monsieur Arcand.
C'est une décision réfléchie, là. C'est pas un coup de tête, c'est pas suite à un quiproquo sur un événement précis. Vous avez mijoté ça depuis un certain temps.
Oui, puis je vous remercie de poser la question parce que des fois, les gens pensent qu'on chicane pour un mot aussi ou ça dans les médias. Écoute, une ville avec un budget de 6 milliards de dollars puis des investissements d'autant, tu peux pas te chicaner tous les jours sur tout, sur des petits détails comme ça, là. Il faut que tu en mettes de côté, puis tu avances, puis tout le monde fait ça, là. Tout le monde dit « OK, ça, je l'ai perdu, ça, je l'ai perdu, ça, je suis pas d'accord, ça, j'avance. » Alors, le départ, c'est pas sur ces choses-là. Le départ, c'est sur une philosophie complètement différente de gestion des impacts environnementaux puis de préparation à la ville face aux impacts environnementaux.
Ça veut dire que vous trouvez que l'administration de Mme Plante va pas assez loin, va pas assez vite, à votre goût?
Absolument. Je pense que en 10 ans, les choses ont beaucoup changé. Je me rappelle, il y a 10 ans, moi, quand je me suis présenté, je parlais pas d'environnement, je parlais d'aménagement urbain, de communauté, de vivre ensemble. Je me rappelle même d'avoir dit, tu sais, les ours, ils sont moins gros dans l'Alaska, on s'en fout, là. Tu sais, tout le monde dit, ah, ben, les ours, ils ont moins à manger. Je m'en foutais, les ours polaires, là. Mais là, ça a changé, là, puis ça a changé vite. Là, on a des appels à l'urgence des groupes d'experts internationaux. C'est pas à peu près, là. On parle d'une agriculture qui a diminué de 12 à 20 en superficie en 2019. On s'attend à une diminution de 40 % dans les prochaines années. La ville de New York, ça vient de mettre son péage à l'accès au centre-ville. 12 $ pour les voitures, 25 $ pour les camions. Il y a des villes qui se proposent, par exemple, comme Madrid, de couper toute circulation automobile d'ici 2030 ou toute circulation automobile à essence dans d'autres villes du nord de l'Europe. Le temps est venu d'agir.
Mais quand vous disiez ça à Mme Plante, évidemment, elle, c'est la mairesse de Montréal. Ben voyons, Luc, on peut pas faire une affaire comme ça.
Oui, mais c'est pas présenté exactement comme non. Ça. C'est plutôt qu'à chaque investissement qu'on faisait, par exemple, on vote une nouvelle piscine, un nouveau centre aquatique à Pierrefonds, 55 millions. Moi, je lève la main, je dis, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. On peut pas mettre 55 millions dans une installation alors qu'il faut acheter des terrains où cette installation va être construite parce qu'il risque d'être inondé. Puis là, pas juste Valérie, la plupart des membres du comité exécutif le voyaient pas, me disaient, peut-être, mais en ce moment, on n'est pas rendu là. Ou électoralement, ça se fait pas. Ou tu vas trop loin. Puis quand, pour un dossier, ça va, deux dossiers, ça va, trois dossiers. Mais rendu à 10 dossiers, là, j'ai compris le message.
OK. Dans votre message hier, justement, vous dites taxer 100 % du stationnement sur rue, hors rue, taxer l'entrée au centre-ville, réinventer le camionnage, taxer les investissements étrangers, taxer les déchets, taxe, beaucoup de taxes.
Ouais. La solution, là, c'est de contraindre le développement. Il faut contraindre nos besoins, notre confort. Il faut arriver à changer nos façons de faire, puis on n'y arrivera pas avec des messages Facebook. Puis, je fais référence aux efforts de guerre. Les nations sont capables de changer leur façon de faire en temps de guerre. En temps de paix, non. Mais, puis ça fait longtemps qu'on est en temps de paix. En temps de guerre, on a été capable de faire ça. Là. Le Canada, mais tous les pays d'Europe, les États-Unis, c'est fabuleux, là, les gens qui lisent un peu ça, là, la vitesse à laquelle les Américains se sont mis à produire des tanks, des avions, ils ont concentré toutes leurs ressources. C'est extraordinaire de voir comment une nation peut se lever en temps de guerre. Le problème, c'est qu'on n'est pas en guerre. Mais c'est une guerre invisible. C'est une extinction.
Vous ne croyez pas aux mesures incitatives à changer l'opinion publique par le discours? Vous croyez que ça prend des mesures qui font mal au portefeuille pour changer les habitudes des gens?
Absolument. Puis on le voit avec les inondations, là, alors qu'il y a beaucoup de gens qui prennent conscience qu'on... Après 2017, le ministère de l'Environnement continuait de recevoir des demandes de permis de construire sur le bord du Richelieu pour des zones inondables 0-2 ans. Donc, susceptible d'être inondé à tous les 2 ans. Il y a quelques années, quand il a été construit, dans les années 2000, quand il a été construit le centre dans le parc, maintenant le parc du Rapide Blanc, du Cheval Blanc, le directeur général de la ville de Montréal avait dit, on peut bien construire dans l'eau, Laval fait pareil. Donc, tant qu'il y a de la pression pour faire de l'argent, il y a des décisions qui vont continuer de se prendre pour qu'on en fasse.
OK. Parlons un peu de vous, de votre attitude, le « fuck you » qui est revenu une couple de fois, le « fuck you » vous inondez par tout le monde en général. C'est un matin, vous êtes mal réveillé, puis vous avez envoyé ça sur Facebook, vous l'avez regretté.
Non, c'est pas moi qui l'ai regretté, c'est la mairesse qui m'a demandé de l'enlever parce qu'elle faisait un effort remarquable de solidarité envers les citoyens, puis elle voulait pas que moi, je donne l'impression que je m'en foutais, mais je m'en foutais pas, au contraire. J'ai signalé par la suite que c'est le plateau qui a fourni le plus d'employés de col bleu aux autres quartiers qui étaient inondés. On a fourni 40 employés à temps plein, puis en temps supplémentaire aussi. Donc, c'était pas un manque de solidarité envers les gens, puis c'est pas de la fatigue, c'est de l'impatience. C'est de voir qu'on n'apprend pas, parce que c'est en 75 qu'on a commencé à parler des terrains inondables. On le savait, on avait mis des règles à ce moment-là. On a mis des règles aussi sur le zonage agricole dans le premier gouvernement Lévesque. Mais depuis ce temps-là, on fait semblant que c'est pas grave, c'est pas grave. Quand c'est collectif, c'est pas grave. Tout ce qui est important, c'est le privé. Puis, le privé, le développement. On a ce complexe au Québec, puis c'est sans doute que c'est ailleurs aussi en Amérique du Nord, mais on était pauvres, on a enfin les moyens de devenir un peu plus prospères, puis on a le complexe de dire faut créer de l'emploi, faut créer de la richesse, faut créer du développement. L'ensemble des maires au Québec pensent dans ces termes-là. Faut créer de la prospérité. Puis ça passe par de la construction, puis ça passe par des routes, puis ça passe par des mines, puis ça passe par des porcheries. Enough.
L'autre chose, c'est que, je me souviens, au début, premier mandat, votre message était clair, là. Moi, je veux pas que les banlieusards qui traversent l'arrondissement pour finalement aboutir au centre-ville, là, viennent sur le plateau. La multiplication des sens uniques, les interdictions de stationnement. Bref, emmerdons l'automobiliste pour être sûr qu'il viendra pas sur le territoire. C'était clair. C'est ça que vous vouliez faire, puis vous l'avez fait.
Mm-hmm.
Le regrettez-vous d'avoir été aussi raide que ça?
Non. Je pense qu'il aurait fallu l'être encore plus. Il y a 43 000 nouvelles voitures sur le territoire montréalais, dans la grande région de Montréal. Il y a 45 000 nouvelles voitures par 45 000 nouvelles voitures par année. Il y en a 10 000 de plus par année à Montréal même. Pour la première année, pour la première fois en 2019, il y a eu un petit peu moins de voitures à Montréal. Donc, il y a 10 000 voitures de croissance de moins que les années précédentes. Il faut prendre des mesures, puis draconiennes, dans tous les quartiers. Parce que avant, je disais ça sur le plateau. Maintenant, il y a plein de gens de Rosemont qui m'écrivent pour dire on peut-tu avoir la même chose? D'ailleurs, M. Croteau a implanté plein de mesures dans ce sens-là. C'est un visionnaire puis un homme d'action. C'est la même chose à Villeray, c'est la même chose dans plein d'autres quartiers. Les gens, on voit la croissance, là, puis on voit le stress qui vient avec. Puis aussi, c'est pareil en banlieue, c'est pareil sur les axes d'autoroute, c'est pareil sur les bretelles. Avant, t'arrivais dans une bretelle d'autoroute à 5 heures du matin, puis t'étais libre à 7 heures du matin. Maintenant, c'est à 5 heures pour que t'arrives. Alors, on est en train d'étouffer comme la grenouille dans l'eau bouillante. Là. La température augmente à chaque année. Faut être radical. Puis, c'est pas chaque automobiliste individuellement qui peut prendre une décision, là. Lui, il est pris avec sa vie, là. Il est pris avec sa maison à une place, puis son travail à l'autre place, là. C'est des décisions collectives de où est-ce qu'on construit, puis comment on se déplace.
Quand on vous accuse, par exemple, d'avoir tué le commerce à la rue Saint-Denis, en disant avec vous, toutes vos mesures, là, les gens veulent pas venir, les gens fuient le quartier, il y a un nombre effarant d'espaces commerciaux, de commerces qui sont alloués. Avez-vous tué à la rue Saint-Denis?
Ben écoute, la rue Saint-Denis, c'est la seule rue sur laquelle on n'a pas fait de changement, premièrement. Puis, deuxièmement, il y a 30 % de commerce vide à New York, tu sais. Puis, sur la rue Victoria, à Westmount, tu sais, c'est quand même pas une rue... c'est Sherbrooke, coin Victoria, là. Puis, Sherbrooke-Victoria, il n'y a pas de changement de sens de circulation, puis il n'y a pas d'augmentation de tarifs de stationnement, puis il y a 30 % de commerce de libre. Donc, les commerces de destination, qui étaient les petits commerces où on allait acheter un truc en particulier, un peu intéressant pour Noël, pour un cadeau, pour ci, pour ça, c'est typiquement le marché de la rue Saint-Denis ou des restaurants, des choses comme ça. Ils ont du mal un peu partout. Alors, j'ai sans doute pas aidé, mais je pense pas que c'est tout à moi à le prendre sur mes épaules.
Je me souviens d'un de vos engagements qui était de ne pas ramasser la neige la fin de semaine. Ça, c'était pas l'idée du siècle.
Écoute, même moi, je me promenais et je me disais, oh, tabarnane. Qu'est-ce que j'ai fait là? Parce que pas ramasser la neige au printemps, c'était une bonne idée. On a économisé 8 millions. Hein? Avec un de ces millions-là, on a réouvert le chalet du parc La Fontaine. Puis on était cassé. Moi, je suis arrivé au pouvoir, on avait 4 millions de dollars de dette. Puis pas beaucoup de possibilités d'économiser de l'argent parce que c'est des salaires, des conventionnés, etc. Fait que oui, pas ramasser la neige au printemps, c'est une bonne idée parce qu'elle va fondre. Mais en janvier, je ne le ferai plus jamais. Là. À moins qu'il annonce une pluie, il est tombé 5 cm, il annonce une pluie. Mais plusieurs fois, je me suis dit, pour me tester, tiens, aujourd'hui, moi, je ne ramasserai pas, il va pleuvoir demain. Ben, plusieurs fois, je me suis trompé parce qu'on l'a ramassé quand même, là, parce que depuis M. Coderre, enfin, on était obligé de la ramasser. Puis, je me dis, le maudit, il nous fait ramasser de la neige, je vais dépenser de l'argent pour rien. Puis, 3 jours plus tard, je me rendais compte qu'il avait eu raison. Fait que, oui, c'est une bonne idée au printemps. D'ailleurs, j'encourage tous les maires de tout le Québec de laisser fondre la neige à partir du 15 mars, mais pas en hiver.
Candidat pour le Parti vert au fédéral, non?
Non. Non. Moi, le fédéral, c'est 200 jours de discussion en chambre sur des textes de loi qui n'en finissent plus. Non.
C'est vrai que la séance du conseil municipal, à la base, vous emmerdait profondément.
En partant, imaginez-vous 200 jours.
Il y a une collègue, Mme Montgomery, qui tricote en plus tellement elle s'ennuie.
Mme Montgomery, je l'adore parce qu'elle s'ennuie encore plus que moi. Puis elle ne peut pas le cacher. Là, son visage, elle soupire à chaque moment. Puis dès que c'est vraiment une femme transparente.
Merci beaucoup d'être venu ce matin, Luc Ferrandin.
C'est moi qui vous remercie.
7h38.